Bonjour et merci de venir assister à cette rencontre avec Olivia de Lamberterie et Irène Frein autour d'un thème qui les rassemble, alors que ce sont désormais, vous Irène, vraiment l'écriture baigne votre vie depuis l'écriture fictionnelle et pas que.
Vous me faites pendre 100 ans d'un seul coup.
Je suis en train de me dire ça, oui.
Et mais à vos pas d'âge.
On va dire que toutes les deux, vous êtes à la fois écrivain, c'est plus frais pour Olivia, et on parlera d'ailleurs du déclic, et journaliste. Et donc ce plateau, c'est pour discuter de ces liens-là. Alors, dans le même temps, c'est un peu fâcheux, parce que vous avez publié toutes les deux des romans.
On n'a pas fait que ça, je crois.
Non, là, les derniers
oui,
livres en date.
Cette année, oui.
Voilà.
On a des vies très riches toutes les
c'est
deux.
C'est ça, oui.
Il ne faut pas croire.
Effectivement, qui n'ont rien à voir avec le journalisme, je vois très
qui bien. Qui n'ont rien à voir avec le journalisme, en effet. Donc là, pour
mais moi,
vous...
j'en suis pas si sûre, justement.
Alors, mais ça, c'est parce que c'est la méthode Frein, ça.
Je ne sais pas s'il y a une méthode Frein.
Mais si, c'est ce que moi j'appelle la méthode Frein.
Oh là là, mon Dieu.
Mais si.
Alors que je suis la femme la plus illogique de la Terre.
Oui, oui, mais ce n'est pas vrai.
Si mon mari était là, il dirait, mais comment, Karine,
mais je sais que vous n'avez pas
retrouvé vos
ça.
Esprits.
Alors d'abord, donc, Olivia de Lamberterie, vous publiez « Comment font les gens ?» qui est une question publiée aux éditions Stock. Et vous, Irène, votre dernier livre en date, c'est « L'allégresse de la femme solitaire ». Et pourquoi je parle de la méthode Frein ? C'est parce que Irène Frein, elle ne part jamais de nulle part. Irène, elle a toujours une succession de curiosités et de petits miracles dans sa vie qui la font s'intéresser et nous raconter des histoires incroyables. L'allégresse de la femme solitaire, ce n'est pas un roman.
Si.
Et c'est aussi une histoire vraie.
En partie. C'est une histoire vraie au départ, mais qui était très énigmatique. Donc, comme j'avais lu qu'un des scientifiques, le directeur du groupe de scientifiques de tous bords qui avait enquêté sur cette histoire avait écrit, il y a 3 ans, l'histoire de la femme solitaire est une page blanche qui n'attend qu'une fiction. Moi, quand j'entends un scientifique dire ça, je me dis, cet homme est absolument merveilleux puisqu'il fait confiance aux romanciers pour trouver la vérité. Mais on pourra rebondir là-dessus parce que ce qu'il y a de commun, je peux peut-être le dire tout de suite, entre journalisme et littérature, c'est le mot qui a donné histoire, vous voulez dire enquête au départ. Historia en grec, c'est enquête, et ça vient d'un autre mot. Je vais faire la pédante, mais tant pis, j'assume ma pédanterie parce que je trouve ça important. Histoire, c'est le témoin, c'est l'homme qui sait parce qu'il a vu. Or, le journaliste, celui qui d'ailleurs va porter, comme disait Albert Londres, le fer dans la plaie, il va voir les témoins, il parle du réel. Et on a toujours fait au journalisme, surtout en France, il y a toujours derrière ce débat littérature-journalisme un soupçon d'illégitimité en défaveur du journaliste. C'est-à-dire que ce serait une sous-catégorie de l'écriture. Et je ne suis pas là pour accorder des permis de chasse, évidemment, mais à force de réfléchir, je me suis dit, j'ai été écrivain avant d'officier dans le journalisme, pas avec des responsabilités importantes comme Olivia, mais... ce qu'il y a de commun, c'est l'enquête. On cherche à comprendre le réel. C'est-à-dire que ce que le journaliste et l'écrivain ont en commun, et ça s'est totalement illustré dans le livre d'Olivia, c'est qu'il y a une apparence, et sous cette apparence, il y a la vérité, qui n'est pas là. On va débusquer la vérité des choses sous l'écorce de la réalité. Olivia le fait, je parle de son livre, à travers tout ce qu'elle sait du réel, à travers le poste que vous occupez, et elle décide de le mettre dans une autre langue, parce que la langue du journaliste et la langue de le romancier ne sont pas la même. Elle l'orchestre, elle d'une autre façon, pour dire une autre vérité qui est certainement plus fer dans la plaie, si j'ose dire, reprenant ici encore l'expression d'Albert Londres, que celle qui est illustrée dans son quotidien, dans son travail et dans son quotidien de femme. Donc, et du moment qu'elle change de langue, elle prend la langue du roman, parce que toute écriture est l'appropriation et la création d'une langue, je ne vois pas qu'on puisse mettre une hiérarchie. Je refuse personnellement l'hiérarchie entre journalisme et littérature, parce que derrière ça, il y a toujours une interrogation du réel et un mécontentement. On ne nous dit pas tout, comme on dit quelquefois, enfin même souvent, mais ça n'est pas ça qu'on nous raconte. Hein, qu'est-ce qu'on, ou si vous voulez, la chanson d'Alain Souchon, ultramoderne, qu'est-ce qu'on nous raconte, on nous Paul Lucille Lisère, on nous Claudia Schiffer, ben, c'est vieux tout ça, ça marque que je suis d'une autre génération.
On connaît tous les paroles par cœur,
voilà,
hein, ça peut vous rassurer.
Voilà, non mais bon, c'est un grand classique, okay. mais voilà. Donc moi, ce que j'ai fait simplement, c'est que quand il y a une question qui m'arrive, qu'elle m'interpelle, comme on dit aussi depuis, c'est un très vilain mot, mais quand elle me sidère, je me dis, bon là, comment peut-on, pour cette femme solitaire, avoir vécu 18 ans seule, être une femme d'une civilisation totalement remontée à des minées d'air, se retrouver confrontée avec l'homme blanc, parmi les plus insupportables de la Terre, quand même, les Yankees et les mafieux hispaniques de cette époque-là, 1853, et qu'on a une joie incroyable. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi, alors, et je me dis, mais cette joie, au moment où j'ai découvert cette histoire, elle m'avait désertée. Et j'étais aussi, qu'est-ce que la joie ? Donc, j'ai décidé d'en faire un roman. Ma méthode, elle est aussi simple que ça. C'est celle de quelqu'un comme Olivia qui n'est pas contente du réel. Enfin, pardon, j'excipe de ce que vous pensez. Moi, ben, j'ai cru comprendre dans votre livre que vous n'étiez pas trop contente du quotidien des femmes surchargées, non ?
Oui, bien sûr. Alors, moi, mon parcours n'est pas du tout le même parce que moi, j'ai été pendant très longtemps et je suis toujours journaliste puisque j'ai la chance de travailler au journal Elle où je m'occupe des livres, où je suis lectrice et puis où j'écris et où j'ai la chance de rencontrer beaucoup de gens que j'adore, d'écrivains que j'adore. Et puis moi, je m'étais dit en fait que la lecture m'a pendant très longtemps suffi. Et puis j'ai perdu mon frère dans des circonstances particulièrement violentes puisqu'il s'est suicidé. Et à ce moment-là, pour la première fois, j'ai eu envie d'écrire autre chose que des articles parce que sa mort était tellement violente qu'elle prenait toute la place et je voulais raconter sa vie. Je ne voulais pas que mon frère, que j'adorais, soit réduit à son suicide. Donc pour la première fois, j'ai essayé d'écrire. Et j'ai découvert qu'il y avait quand même une petite différence pour moi entre l'écriture journalistique et l'écriture de littérature. C'est évidemment la langue, comme vous l'avez dit très justement, Irène. Mais c'est aussi que j'ai eu le sentiment que la littérature est le territoire de quelque chose qui ne se dit pas, de l'indicible peut-être. Et qu'en tous les cas, on pouvait explorer au travers de la littérature quelque chose d'assez mystérieux. Donc j'ai écrit ce premier livre, mais qui était vraiment un récit, donc qui était plus proche peut-être dans la façon de ce que j'écrivais à elle, puisque j'avais un grand souci du réel. Si mon frère avait un pull bleu, il ne s'agissait pas de dire qu'il avait un pull rouge. Je voulais rester très, très, le plus proche de lui. Et puis, ça m'a donné envie quand même d'explorer un autre territoire qui était celui de la fiction. J'ai eu l'impression que... Moi, j'écris depuis que j'ai 20 ans, donc je suis journaliste depuis très longtemps. Et c'est comme si j'avais fait en fait des gammes, hein, comme si j'avais joué du piano pendant très longtemps. Et tout d'un coup... j'ai eu le droit de... Composer. Ou j'ai eu envie de composer une symphonie. Voilà. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup de Joan Didion, que je sais que vous aimez beaucoup aussi, qui dit que dans la vie, pour vivre, pour supporter le réel et les chagrins, on est obligé de se raconter des histoires, et que l'écriture des livres, c'est les histoires de ces histoires. Et j'ai l'impression que c'est ce que j'essaye de faire.
Si j'en viens à considérer vos personnages, donc on est d'accord, nous sommes dans les deux cas dans une fiction pour parler de vos livres qui sont sortis les plus récemment. Donc vous, Irène, c'était une femme qui était nimbée, émue par la joie dans des circonstances où vraiment elle n'aurait pas dû. Et vous, dans votre livre, Olivia, c'est une femme qui est éditrice, qui a une cinquantaine d'années, donc qui est mère de famille, et qui est coincée, donc elle est parisienne, donc c'est notre temps, notre époque, donc de consommation, de jouissance, de biens, de quand même un monde très très confortable. Elle est coincée dans une vie où sa mère, qui est un pur produit de 68, finalement a fait passer sa cause avant sa fille, mais surtout mépriser les hommes. Et une fille, donc la production de ce qu'elle a, de son éducation et de ce que la société est devenue, donc de votre héroïne, qui déteste les hommes. Donc elle se retrouve coincée finalement dans une identité féminine qui a tellement évolué, on a l'impression qu'elle n'arrive pas à trouver sa place.
Oui, je reconnais là votre pertinence. Oui, je voulais parler en fait d'une génération, vraiment de cette génération de femmes cinquantenaires, mais ça peut être un peu avant, un peu après, qui était un peu sacrifiée d'ailleurs, parce que la génération précédente est une génération de féministes historiques que j'ai moi-même beaucoup fréquentée d'ailleurs dans les couloirs de Elle, ou que j'ai beaucoup interviewée comme journaliste, Simone Veil en premier, de femmes qui s'étaient battues pour le droit à l'avortement, le droit à la contraception, et femmes pour lesquelles d'ailleurs j'ai énormément d'admiration. Et une partie du livre, c'était aussi de dire cette admiration. Et comme vous le dites, je pense qu'elles ont pas mal sacrifié leur vie de famille. Et puis, en dessous, il y a une génération de jeunes féministes qu'on voit beaucoup dans les journaux, qu'on appelle woke, éveillées, et qui sont très radicales, et qui, elles, effectivement, ont un parti pris vis-à-vis des hommes qui, moi, me semble assez violent, de faire rendre gorge aux hommes. Il y a eu ce livre qui m'avait quand même beaucoup interpellée, qui s'appelait « Moi, les hommes, je les déteste », et écrit, d'ailleurs très intéressant, hein, moi je porte aucun jugement en disant ça, mais c'est vrai que ça m'avait fait bondir ce titre. Donc moi, je voulais m'interroger à cette génération coincée entre les deux, qu'on a beaucoup accusée d'être le ventre mou du féminisme, et que moi je ne trouve pas molle du tout, parce que quand je regarde mes amis ou les femmes autour de moi, je trouve que c'est la première génération de femmes à avoir expérimenté toutes les libertés. C'est-à-dire qu'elles avaient le droit de travailler comme des hommes, sauf qu'elles avaient encore tous les devoirs des femmes de l'époque. Je pense que les hommes ont beaucoup, beaucoup évolué. Quand je vois mon fils de 30 ans, comment il s'occupe de sa petite fille, il n'a rien à voir avec mon père qui rentrait, que j'adore, hein, mais qui disait « qu'est-ce qu'on a pour le dîner ce soir ?» Je pense que mon père ne savait même pas où était la cuisine. Alors que mon fils fait très bien la cuisine. Donc, cette génération de cinquantenaires, et si nous, on avait un peu envie de dire « Waouh, on est un tout petit peu fatigué par ces vies très trépidantes », on nous répondait « Mais de quoi vous plaignez-vous ? C'est bien ce que vous vouliez. » Et effectivement, c'est ce qu'on voulait. Mais le revers de la médaille, je trouve, est un peu violent aussi. Et c'est un livre où, vraiment, quand je l'ai écrit, « Anna, ce n'est pas moi ». Mais c'est nous. J'avais envie que ce soit un livre miroir des femmes d'aujourd'hui, parce que je trouvais que la charge mentale, les réunions de parents, c'était des sujets, l'éducation des enfants, bien sûr, c'était des sujets que j'avais envie de faire rentrer dans la littérature, que j'avais pas envie de traiter en tant que journaliste, mais vraiment, bah, la littérature, c'est Crime et Châtiment, mais c'est aussi les relations conjugales et l'éducation des enfants.
Vous avez d'ailleurs un point commun avec le livre d'Irène, c'est que la fille aînée de votre héroïne s'appelle Allegra, et on retrouve un peu le titre.
Ça m'a frappée.
Moi, j'ai été j'ai été, je suis un peu plus jeune que vous, mais j'ai été bercée. Moi, je me souviens très bien de vos sagas. J'ai grandi avec les livres d'Irène qui étaient dans la bibliothèque familiale.
Et ça devient, avec l'âge, ça devient de moins en moins des sagas.
Oui, c'est, oui, mais c'est pour
c'est
ça
vrai,
que
on
mais
change.
J'ai beaucoup d'admiration pour vous parce que je trouve que vous avez réussi toujours à changer de genre littéraire et à vous réinventer à chaque livre.
J'ai peur de m'ennuyer.
Eh ben, en tous les cas, vous n'ennuyez pas vos lecteurs.
Et pour, la meilleure vitamine pour les vieux, c'est la curiosité. Donc, ça, voilà, c'est la seule jouvence que je connaisse.
Et je me souviens de vos papiers dans Paris Match. Aussi,
oui, je faisais beaucoup la crétine.
Ah non, pas du tout.
Non, j'ai fait des choses sérieuses par moment, oui. Mais je suis assez sérieuse, je pense. Mais plus le temps passe, plus j'ai deux choses. J'ai deux envies. C'est de me concentrer davantage sur l'essentiel, ce qui est très sérieux, et de faire de la gravité des choses légères et de la légèreté des choses graves, vous voyez, c'est ça. Donc ce livre est assez grave, en effet, puisque c'est la confrontation d'une femme des temps premiers avec l'homme blanc et avec sa cruauté, mais cette femme, à travers sa joie, si je l'ai choisie, finalement, je suis tombée amoureuse de cette femme. Et je crois que la différence du livre d'Olivia, où c'est un composite de femmes et qu'elle connaît bien et dont elle a fait un personnage qui concrétise, qui, au sens anglais du terme, qui rassemble et qui agglutine dans un véritable personnage. Des femmes qu'elle a observées. Là, la femme solitaire, c'est un véritable... C'est une énigme, cette femme, historique. Ça reste une énigme. Mais je voulais comprendre en miroir ce qu'était sa joie, parce que moi-même, j'avais besoin de renaître après l'assassinat de ma sœur. Je ne pouvais plus écrire. Donc, pourquoi un roman ? Pourquoi faire un roman ? Alors que finalement, j'aurais pu faire une biographie ou une étude historique, j'avais tous les moyens pour ça. Et c'est parce que je voulais explorer l'énigme de la joie. Et c'est ce côté, on en revient toujours, je suis un peu obsessive, un journaliste, il met sa foreuse aussi sous l'écorce du réel pour aller débusquer cette vérité. Et c'est ce qu'il y a de commun entre journalisme et littérature, c'est la foreuse. On ne sait pas nécessairement, quand on commence un article, vous ne savez pas nécessairement où vous allez atterrir. Mais c'est la même chose quand on écrit un roman. Quelquefois, même assez souvent, les lecteurs vous disent « Mais vous avez écrit la fin avant ?» Moi, j'ai honte, mais je dis quand même la vérité. Je ne connais pas la fin. Parce que la fin, c'est, elle est en nous, en fait. Elle est au plus profond de nous. Donc, la différence peut-être entre le journalisme et la littérature et un roman, et c'est que dans le journalisme, il y a quand même des faits objectifs qui doivent être partagés avec le lecteur, parce qu'on n'est pas là pour s'étaler sur son introspection. Quand on fait du journalisme, là, on s'affrète à taper quand même sacrément sur les doigts, je pense. On est là pour donner un regard. C'est le regard du journaliste, c'est-à-dire que celui qui a été témoin, qui sait parce qu'il a vu et qu'il est allé voir, et quelquefois, il va voir le journaliste au péril de sa vie, ou quand c'est pas de sa vie, c'est quelquefois de son équilibre mental. Parce qu'il y a des sujets qui se passent à Paris, si on les explore, ils sont redoutables. Redoutable. Moi, je me souviens d'avoir fait une enquête. La première qu'on m'ait donnée à Paris Match, c'était sur les prostituées de la rue Brunel qui étaient très violentes. Donc, si j'ose dire, j'avais fait le trottoir deux soirs avec elles. Je m'étais fait injurier, traiter de tous les noms, etc. J'ai fait le papier. Bon, le plus grave ne m'a pas été de me faire injurier par le maire de l'arrondissement Strasbourg-Saint-Denis, ça a été la déprime que j'ai faite parce que, dans le fond, je ne connaissais rien à la prostitution. Et quand j'ai compris ce qu'était la prostitution, ces deux nuits passées debout avec les prostituées, très violentes d'ailleurs, Vraiment, c'était des rapports sadomaso, hein, j'avais observé les clients, ce qu'on appelait les julots casse-croûte, c'est-à-dire les macros, quoi, etc. J'ai appris le vocabulaire, etc. Après, moi, j'ai fait une petite déprime parce que, pour moi, évidemment, je savais que la prostitution existait. J'avais vu des prostituées comme ça dans les rues, bon, dans certains quartiers. J'étais pas une oie blanche, mais j'avais pas approché à cette condition. Et à l'époque, j'étais encore prof et j'avais fait cet article. Et je me souviens, dans un conseil de classe, puisque vous parlez de parents d'élèves, une prof a dit d'une élève qu'elle se prostituait. Et c'était vrai. Nous avions une élève qui se prostituait. On était dans le 9e. Et moi, cette fille, elle commençait à s'en sortir parce qu'elle commençait à lire des livres. J'avais réussi à la faire lire. Et j'ai entendu des profs de gauche, commencer à, des femmes profs d'ailleurs, à dire des choses que je trouve, d'un mépris et d'une empreinte de toute la de tout le mépris traditionnel sur les prostituées. Et là, je me souviens que j'ai poussé une gueulante, pardonnez-moi l'expression, et c'est très mal passé. Et c'est là que je me suis dit, est-ce que je suis toujours faite pour rester dans l'éducation nationale ? Et quand j'ai eu une proposition pour Match, je l'ai prise, de salariat, si vous voulez. Je l'ai acceptée parce que je me suis dit que ma place était là. Et je ne voyais pas de contradiction entre mon travail, justement, d'écriture. J'ai pensé que ça m'apprendrait à aller plus loin en moi-même. Et je dis toujours que j'ai eu deux écoles, c'est la Sorbonne et Match, où il m'est arrivé de faire deux, trois papiers dans elle à l'époque aussi. À la Sorbonne, bon, j'avais appris les archives. Là, j'ai exploré des archives. J'ai d'ailleurs exploré des archives de journaux, parce que c'est très intéressant. On trouve énormément de choses. Les Américains avaient numérisé tous les journaux sur cette femme extraordinaire. Et donc, j'ai pu utiliser les journaux pour écrire mon livre. Mais les archives, en général, je les connais. Je sais comment on fait dans les archives. C'est d'ailleurs passionnant, mais ce n'est pas si barbant que ça. Mais on revient toujours à l'histoire d'enquête. Vous voyez ? Par exemple, j'en terminerai, hein. Pardonnez-moi, je suis un peu longue, mais Marie Curie prend un amant. Bon, je trouve un vieux fascicule fasciste 1910 ou 11 qui contient une assignation à comparaître pour Marie Curie pour adultère. Et elle a détourné un homme de sa femme, donc elle risque la prison, une amende, etc. Il y a une véritable assignation et des torrents d'injures sur Marie Curie dans cette feuille antisémite, anti tout ce qu'on veut. Et je me dis comment à l'école on m'avait pas vendu Marie Curie comme ça. On m'avait vendu Marie Curie, la sainte laïque, le radium. Et je me dis est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? L'assignation avait tous les dehors de la vérité. Et est-ce qu'elle a eu un amant? Est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est vrai? Moi, Marie Curie, c'était Pierre Curie, c'était la veuve, c'est Jackie Kennedy avant au nazis, quoi. Bon. Et puis, je me dis, il y a une seule façon de savoir si c'est vrai. Je regarde la liste des archives, j'avais regardé sa comptabilité. Et je me dis, je vais voir la compta. Parce qu'une femme. Alors, je pars d'un. Une présupposée, c'est vraiment une présupposée, c'est pas démontré. Mais ma vie de femme, bon, quand on est amoureuse, on dépense plus pour la coquetterie, les trucs. Et je me dis, je vais voir la compta. Toute la compta de la Marie Curie avait été déposée à la BNF par les descendants parce qu'ils voulaient prouver qu'elle était vraiment une femme, comment vous dire. Alors, elle était rigoureuse, radin, économe, enfin la sainte, hein, la sainte à tous égards, y compris avec l'argent qu'elle ne jetait pas par les fenêtres. Alors je vois la compta, je m'aperçois que jusqu'à une certaine date, elle est complètement radin à un degré qu'on ne peut pas imaginer. Elle a deux comptas d'ailleurs, elle a une fausse, une première compta et une deuxième qui est l'officielle. Elle sera un registre du bon marché, maison de qualité, de tradition. Et puis, enfin, jusqu'à une époque récente. Et puis, une autre compta parallèle sur des petits carnets où, en fait, que sa compta est son journal intime. Et au moment où elle est supposée prendre commandement Paul Langevin, il y a une hausse brusque des dépenses. Et là, j'ai un document fabuleux. Et après, quand la rupture est consommée, eh ben, on revient à Madame Curie, qui est très radin, etc., qui, au moindre centime... Et j'ai même trouvé l'achat d'un objet de contraception de l'époque que je ne saurais nommer ici. C'était un peu encombrant. Et ça correspond à un voyage qu'elle fait. Alors, ce que j'ai fait dans le texte, qui pour le coup n'est pas un roman, je ne suis pas allée dans la chambre de Marie Curie, c'était une biographie d'un épisode. Hein, parce que je sépare aussi. Quand je fais un roman, je peux inventer. C'est une bio ou un épisode biographique. Je suis dans le genre, en effet, sérieuse. Et là, on voit la femme passionnée à travers la compta. Bon, ben, c'est ça l'enquête. Mais ça peut être aussi... ça a pu être sur ma sœur. Je suis allée enquêter, regarder, parce que pauvre, malheureuse que j'étais incapable d'enquêter, avec une journaliste à Brétigny-sur-Orge. Et quand j'ai dit ça à mon éditrice, elle m'a dit : comment ? Vous allez aller en banlieue ? Eh bien, bon courage. Et c'était à 20 km de Paris. Mais quand on veut, on fait. Et on retrouve la notion d'enquête. C'est-à-dire, le mot histoire, qui veut dire histoire avec un grand H, il veut aussi dire fiction. Olivia écrit une fiction, une histoire. Et en fait, quand elle est journaliste, je pense qu'elle écrit pas, elle balance pas des histoires, elle ne vous raconte pas des craques, quoi, en gros.
En fait, la différence entre le journalisme et le travail du roman, c'est aussi un rapport à la matière, une relation à la matière.
C'est le réel. On va voir le réel, et après, on en rend compte... dans un journal, selon les règles du journalisme, et dans un roman, il n'y a pas de règles dans le roman, selon les règles de la liberté. Mais la liberté conduisant à une vérité cachée. Et ça, c'est absolument délectable. Et c'est un plaisir d'enfant. Et avec ça, quand on écrit, on est un enfant. On n'est même pas jeune, on est un enfant. Alors, c'est génial.
Olivia.
Oui, je pense que le rapport à la matière, effectivement, n'est pas le même, puisque les sujets que j'avais envie d'aborder, qui touchaient à la vie des femmes d'aujourd'hui, j'ai effectivement choisi de les aborder de l'intérieur, d'une façon qui n'était pas du tout journalistique. Le modèle, c'était évidemment Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Je voulais me mettre dans la psyché et dans les pensées d'une femme pendant 24 heures. Parce que c'était un moyen de raconter par la forme ce que je voulais dire, c'est-à-dire qu'on est submergé de pensées et d'informations. On arrive le matin à son travail, quel qu'il soit, on commence à travailler, et puis tout d'un coup, vous avez cet objet qui est le téléphone, qui vous relie sans cesse au monde, et vous avez un message parce que vous avez oublié de mettre les affaires de la piscine de votre enfant. Alors hop, moi ça m'est arrivé beaucoup, parce que je suis très oublieuse, donc vous interrompez votre tâche pour essayer de savoir comment vous allez pouvoir, à l'autre bout de Paris, faire en sorte que votre enfant va avoir son maillot et va pas être le petit garçon, vous savez, qui est sur le banc et qui regarde les autres nager pendant une heure et demie. Et puis, au moment où vous avez résolu ce problème, tout d'un coup, vous avez un message de l'EHPAD de votre mère parce que votre mère a fait une bêtise. Et puis après, vous avez un autre message d'une de vos amies qui a besoin de vous. Donc, je voulais vraiment... être dans la tête de cette femme, submergée de faits, de choses à faire, parce qu'il me semble que ça ressemble...
C'est la charge mentale, votre
à
sujet.
À la vie des femmes, voilà. Mais que je ne voulais pas du tout traiter de manière journalistique, d'où ça vient, comment on s'en sort. Dans les papiers que j'écris à elle, parfois j'essaye de trouver des petites solutions. Là, malheureusement, je n'ai aucune solution.
Il y a la solution de votre style, parce que quand on suit, la langue plutôt, elle est à l'image de cette submersion constante.
Oui,
c'est-à-dire, on a l'impression que tout ça tombe en rafale, et que vous, la phrase essaie de s'extraire vers le haut et alors vous sortez la tête et le style est très rapide. Altant, à l'image des tâches qui s'abattent sur elle.
Voilà. Et puis parce que l'autre grand sujet qui m'intéresse énormément, c'est celui du temps et du rapport au temps. Donc du rapport au temps, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre autant de choses dans une journée ? Et puis vraiment, le sujet qui me passionne, et qui je trouve devrait nous passionner tous d'ailleurs, c'est qu'est-ce que c'est que de vieillir ? Qu'est-ce que c'est que de vieillir ? Ce qui, a priori, est très démocratique, ça nous arrive à tous. Donc, finalement, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est qu'est-ce que c'est que de vieillir, surtout quand on est une femme, dans une société qui n'aime que la jeunesse. Je trouve que les femmes devraient se révolter presque contre la manière que la société a de lui faire peser des injonctions folles sur ses épaules. Donc il y a une partie qui est qu'est-ce que c'est que d'avoir 50 ans, qu'est-ce que c'est que de vieillir. Et puis il y a une autre chose qui était vraiment, alors là, qui est née du confinement, puisque j'écrivais beaucoup pendant le confinement, qui est la manière dont notre société traite ses vieux. Moi, j'aime bien dire les vieux. Un jour, j'avais interviewé Mona Ouzouf, que j'adore. Et Mona Ouzouf, elle m'avait dit, on ne dit pas les personnes jeunes.
Ah, oui, oui.
Alors pourquoi on doit dire les personnes âgées ? Elle m'avait dit, je suis une vieille. Et c'est la plus vieille personne, la plus miraculeuse et merveilleuse que j'ai rencontrée. Et je me souviens très bien, pendant le confinement, d'un jour où, comme tout le monde, on était suspendu aux informations. Et il y avait cette nouvelle qui était que dans les EHPAD, il y avait une personne qui avait, dans un bureau, une personne de l'administration, qui avait décidé qu'on n'avait plus le droit de toucher les personnes âgées. Et pour moi, je me suis dit, c'est le comble de la décadence et c'est la fin de la civilisation. Parce que si on ne peut plus prendre la main de sa mère ou de sa grand-mère ou une aide-soignante de la personne dont elle s'occupe, il n'y a plus de civilisation. Et donc, c'est vraiment un problème que je voulais aborder, qui est que donc on a 50 ans, on a 60 ans, et qu'est-ce que c'est que ce moment où on devient les parents de ses propres parents, quelle relation on a avec eux, et puis oui, comment la société traite ses vieux.
Alors la question que vous soulevez, oui, c'est qu'est-ce que c'est qu'avoir la cinquantaine aujourd'hui, vous venez de le dire, mais il y a des racines à cette question dans votre texte, puisqu'il y a, au fond, j'ai 50 ans, vous parlez de la maman d'Anna, qui était donc cette grande féministe, et qui lui dit, être brillante est la seule manière de faire oublier le genre, de faire oublier que tu es une fille. Donc il y a dans votre livre beaucoup d'injonctions maternelles. Je ne t'ai pas élevée pour que tu deviennes ménagère. Est-ce qu'au fond, à 50 ans, on n'arrive pas à... On a fait tout ce qu'on avait à faire, les enfants ont grandi, on a répondu aux injections qu'on dit être... Aux injonctions, oui, pardon. Merci.
Oui. C'est un joli lapsus.
Joli lapsus.
Par les temps qui courent.
Parfois par des injections.
On a répondu aux injonctions... de la société, mais qui sont aussi souvent, on s'en aperçoit, des injonctions de la famille, de la mère,
bien
beaucoup
sûr.
De la mère, en
bien
fait.
Bien sûr. Alors, cette héroïne, effectivement, elle a été élevée par une mère très féministe. Et du coup, depuis l'enfance, elle est soumise presque à un devoir de perfection. Mais je trouve que ce devoir de perfection imposé par la mère, il rejoint aussi beaucoup les injonctions de la société. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand on est une femme, par exemple dans l'entreprise, vous n'avez pas tellement le droit de trébucher. Je pense que les hommes sont soumis à un traitement beaucoup plus de faveur. Et quant à l'injonction maternelle, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le livre de Brigitte Giraud, qui a reçu le prix Goncourt, que vous pouvez aller voir. Il y a tout un chapitre qui m'a beaucoup, beaucoup marquée, où elle dit « Jusqu'à quel âge on se préoccupe du regard de sa mère ?» parce que son héroïne, vous lirez le livre, j'espère, qui est très beau, elle déménage. Et puis à un moment, elle s'interroge, elle se dit, mais au fond, pourquoi est-ce que je déménage? Est-ce que j'ai vraiment si envie de déménager? Ou est-ce que j'ai envie de montrer à ma mère que j'ai réussi? J'ai trouvé que c'était très fort et très beau ce qu'elle disait là-dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui, au-delà d'un âge limite, sont toujours très...
Je l'ai dépassé.
Soumis au regard maternel et en tous les cas au regard sociétal, oui. Vous l'avez dépassé, vous avez beaucoup de chance.
Ben, je trouve, c'est-à-dire que, en fait, ma fille doit avoir votre âge. J'ai eu très tôt, quand même. Il faut que je précise. Sinon, je vous mettais tout de suite à l'EHPAD.
Pas du tout. J'ai eu un fils très tôt qui lui-même est au stand de Flammarion à dédicacer son livre. Donc, vous voyez, j'ai un fils.
Oui, je crains que votre fils ait l'âge de mon petit-fils. Parce que dans la famille, on a tout fait très tôt.
C'est la vie des femmes.
Je suis vraiment je suis embarrassée parce que, je revendique ma... J'ai dû faire les piqûres, la grippe, etc. J'ai dit, je suis allée... aller faire la piqûre des vieux. Mais en fait, oui, je pense que c'est une chance. C'est une chance parce que ça libère l'esprit. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur le marché. Vous voyez, on n'est plus sur le marché.
C'est-à-dire que vous êtes surtout mariée depuis très longtemps.
Oui, non, mais je suis plus... Ah bah oui, mais enfin, mariée, ça n'empêche pas des tas de choses. Enfin, écoute, je ne vais pas vous... Bon, même le désir, bon... nous, on a souffri. Enfin, bon, puis je ne vais pas vous raconter ma vie. Mais vieillir, comment vous dire, c'est agréable tant qu'on est en bonne santé, parce qu'on n'est plus sur le marché, puis on peut dire des choses qu'on ne peut pas dire plus jeune, quoi, comme des crétines cris que je viens de vous dire. Mais, et ça permet aussi d'écrire des choses comme ce que j'ai écrit, de me lancer dans des aventures pareilles.
Oui, enfin, ça compte pas, Irène, quand vous dites ça, parce que vous êtes depuis toujours... Vous êtes un prototype, parce qu'il y en a plusieurs, de la femme libre. Et on sait que vous l'avez payé extrêmement cher. Vous l'avez écrit. Vous avez parlé de votre papa, de votre maman, votre sœur.
Oui, mais en même temps, j'ai appris beaucoup. Vous savez, on apprend beaucoup en payant cher. Moi, je ne regarde pas en arrière, je regarde en avant. On avance avec ses blessures aussi, tous. Et je pense que... Moi, je ne pense pas que la liberté... la liberté politique, elle a appris quand on est en Russie ou en Corée du Nord ou dans toutes les dictatures, la liberté se paie très cher. Mais je l'ai choisie, moi, aussi. On ne m'a pas... au début, oui, quand je suis arrivée quand j'ai commencé à écrire, j'étais une jeune femme très naïve parce que j'arrivais d'un monde de la méritocratie, donc je connaissais pas du tout les fonctionnements du milieu littéraire et évidemment il y a des choses que j'ai pas bien comprises. Mais il faut regarder en avant, il faut faire avec ce qu'on a appris. Et quand je me vois pouvoir écrire une fiction, me relever en écrivant une fiction après un événement douloureux, comme je l'ai vécu, je ne pensais jamais pouvoir me relever. Quand j'ai écrit Un crime sans importance, je l'ai écrit comme c'était mon dernier écrit et mon dernier cri. Je pensais que j'allais sombrer, j'allais même sombrer physiquement. Donc voilà, j'ai ressuscité. Et la fiction permet de ressusciter, permet de cette réponse à la chaîne de vie. Parce qu'on va chercher sous les corps du réel, on va chercher du sens. Vous savez, écrire l'étymologie du mot latin, et même la signification du mot, enfin, c'est scribere en latin, en grec c'est graphein et ça le même nom, ça veut dire faire des coupures, des incisions, des marques, ben nous, des traces. Nous sommes faits de traces, tous. Nous sommes faits de cicatrices. Et scribere, c'est la même racine que vous trouvez dans l'anglais scar, une scarification, une cicatrice, comme dans Scarface. Donc nous écrivons mais nous sommes tous faits de traces. Pas un d'entre vous n'est une cire vierge comme à sa naissance. Donc simplement, les journalistes et les écrivains ne se contentent pas de la face maquillée du réel. Donc ils font sauter le maquillage, le plâtre, le stuc, et ils vont chercher. Et c'est, vous disiez tout à l'heure que j'avais écrit des choses les plus diverses. Oui, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de maquillage et de plâtrage et de trompe-l'œil partout. Voilà. Donc, tant que, et pour répondre à votre question, à votre préoccupation sur le vieillissement, je pense que la vraie vitamine anti-vieillissement, c'est la curiosité. C'est de se remettre en jeu. C'est-à-dire qu'à chaque fois, n'étant pas contente de la réalité telle qu'elle était, pour en revenir au débat, j'ai remis mes plaques sur la table. Alors, quand on joue au casino, ben, on peut perdre. Il m'est arrivé de perdre. J'ai pu souffrir d'avoir le sentiment de ne pas être comprise. La satisfaction que j'ai, c'est qu'un certain nombre de mes livres sont devenus des classiques. Oui. Et ils n'étaient pas dépendants de la mode. Et pour en revenir à ce que disait Olivia sur le temps, qui me paraît capital, le temps est le tissu du romancier. Hein. Le texte, ce textile sur lequel nous travaillons nos mots, un texte romanesque est fait de temps. Donc pour Olivia, c'est une journée. C'est 24 heures dans la vie d'une femme. Moi, j'avais choisi 7 semaines dans la vie d'une ville. Ouais. Et commencer à écrire un roman, c'est aussi s'accorder une durée quand même plus longue en termes de langage qu'un article. On a quoi, 2 pages, 3 pages, enfin des feuillets, on compte en feuillets, on compte en signes, aux États-Unis on compte en mots, c'est limité, on vous dit vous avez 200 mots. Là, vous avez la durée que vous voulez. Et vous pouvez aussi choisir la durée que vous voulez.
Alors, sauf que nous, on ne peut pas.
Ben non, alors je m'arrête.
Parce qu'on va bientôt, devoir se laisser. Vous disiez de façon évidemment très pertinente, Irène, qu'il y a la question du temps dans le roman. Il y a cette dilatation, cette capacité à choisir sa liberté, enfin être libre, mais à choisir aussi de quelle manière on l'est. Dans votre livre, Olivia, il y a aussi une temporalité assez précise qui est notre temps. Et certes, ces 24 heures qu'on lit comme aussi un rapport à sa vie tout entière qui est contenu là dans cette journée. Mais autant on a parlé des relations avec la mère, mais vous nous dites dans ce livre, et c'est quelque chose d'assez particulier, on savait que c'était compliqué d'apprendre à être la mère de sa fille. Mmh. Non, d'être la fille de sa mère.
Mmh. Oui, et de devenir la mère de sa fille.
Oui, mais ce que vous nous dites, c'est qu'aujourd'hui, la question se pose de, quand on a la cinquantaine, comment peut-on être la mère de sa fille ? Vous commenciez à dire que les filles aujourd'hui sont différentes, c'est un peu différent des garçons.
Ah oui, oui.
Et c'est une vraie question dans votre livre.
Oui, oui, parce que je trouve que mère, être mère, est devenu quelque chose de très compliqué. Moi, je n'ai pas de fille. Hein. Je me suis inventé 3 filles parce que j'ai 3 fils. Mais en revanche, j'ai quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'il y a 20 ans d'écart entre mon fils aîné et mon dernier fils. Alors, peut-être parce que j'étais jeune, mais pas seulement. Je n'ai jamais, par exemple, regardé le cahier de texte de mon fils aîné. Il rentrait, il avait des devoirs à faire, il les faisait, ma foi, parfois bien, parfois pas bien, mais c'était très lambda. Aujourd'hui, il me semble que l'éducation nationale a inventé un truc fou, qui est l'école directe, Pronote, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a plusieurs noms, qui est qu'en tant que parent, vous avez un accès direct, en temps réel, aux notes de votre enfant et aux notes de l'ensemble de la classe. Donc, par exemple, je me dis que ce petit passage qu'on a tous vécu quand on était enfant, on a une mauvaise note. On a le trajet de l'école, vous savez, pour inventer que le prof était fou, que tout le monde a raté, que je ne sais pas. Là, ça n'existe plus puisque vos parents sont informés avant même que vous puissiez leur dire des notes de votre enfant. Ça me semble mais délirant parce que ça veut dire quoi ? En fait, là, ça a l'air drôle, mais ça veut dire que l'école réduit vos enfants à leurs notes. Mais Dieu soit loué, ce n'est pas le cas. Un jour, j'avais rendez-vous avec un professeur. J'ai un enfant qui travaille. Enfin, je sais, qui avait fait je sais pas quoi, pas quelque chose de grave, hein, mais peut-être qu'il avait moins bien travaillé. Et le professeur m'a parlé pendant tout l'entretien de mon enfant comme d'un élément. On m'a dit, ici, on n'aime pas les éléments, j'en sais rien, impertinents et tout. Et je me suis dit, mais c'est horrible. Donc, au travers de ces exemples qui ont l'air, en fait, dérisoires, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'humanité qui est perdu. Hein, et que les mères, elles croulent sous les devoirs à faire à la maison. C'est pas leur travail. Moi, j'ai toujours fait confiance à l'école, et l'école est là pour enseigner à mes enfants ce qu'ils doivent apprendre. Moi, je suis pas là pour apprendre la guerre de 100 ans. Et il me semble qu'aujourd'hui, on confie aux mères des tâches qui sont énormes. Et d'ailleurs, il y a un truc qui me frappe aussi, c'est que quand vous avez, Dieu sait que je regarde pas beaucoup la télé, et que j'ai horreur des faits divers, de leur traitement à la télévision. Et c'est toujours les mères qui sont responsables de l'enfant monstrueux. C'est jamais le père qui a pas fait faire les fables de La Fontaine à son enfant. Je trouve que le regard qui est porté sur les mères par la société est aussi quand même assez problématique.
Outre cela, vous dites que vous avez des garçons, c'est une chose, mais il n'empêche que vous faites œuvre romanesque et que vous connaissez suffisamment le féminin, vous connaissez, et puis la capacité de l'écrivain à être un voyant, elle est aussi, c'est un vrai sujet. Qu'est-ce que la femme d'aujourd'hui, la mère d'aujourd'hui, transmet à son adolescente? Qu'est-ce que vous avez reçu en tant que jeune fille, je parle vous en général, d'une mère qui était pour vous un modèle? Est-ce qu'aujourd'hui, les mères sont encore le modèle de leur fille?
C'est une vraie question passionnante.
C'est dans votre livre.
À laquelle on peut répondre. Il y a eu un sondage il n'y a pas très longtemps. Et on demandait aux jeunes filles d'aujourd'hui si elles voulaient elles-mêmes avoir des enfants. Et la proportion de jeunes filles d'aujourd'hui qui ne voulaient pas avoir d'enfants était énorme. C'était de l'ordre de 30%. Et effectivement, je pense que pour les adolescentes d'aujourd'hui, les mères ne sont pas forcément un modèle. Alors que j'ai l'impression que pour ma génération, nos mères...
Et est-ce qu'elles aiment leur grand-mère ?
Ah, je pense que oui, je pense qu'il y a un lien très fort avec, avec les grand-mères. Moi, je trouve que c'est
une
chose...
J'ai une assez bonne réputation comme grand-mère.
C'est une chose très belle, c'est une chose très belle de l'enfance, comme on aime sa grand-mère.
Oui, oui.
Et comme quand on est enfant, on n'a pas du tout peur de la vieillesse, d'ailleurs.
Mais
bien sûr, qu'est-ce qu'on... Je trouve que qu'est-ce qu'on doit apprendre à ces jeunes filles d'aujourd'hui ? Je pense qu'il faut
d'abord,
tout réinventer.
Qu'elles
ne
sont pas éternelles, tout ça partira.
Oui, mais ce qui a changé aussi, c'est que MeToo est venu par là et que rien ne sera plus comme avant. Et moi, je trouve que c'est passionnant de réinventer un nouvel ordre amoureux, de réinventer un nouvel ordre maternel après MeToo, bien sûr.
Il faudra, dans le journalisme ou dans l'écriture, l'une ou l'autre, peut-être commencer à s'intéresser aux jeunes gens, aux jeunes hommes.
Moi, j'ai beaucoup de gratitude pour les jeunes filles d'aujourd'hui. Je me souviens très bien qu'il n'y a pas très longtemps, je faisais une interview de Pénélope Bagieu, qui a donc la génération sous la mienne, qui est une féministe. Alors, elle est très radicale, elle a écrit ses bandes dessinées Les Culottés, que j'aime beaucoup. Et à un moment de l'interview, elle a sorti ce terme qui est de micro-agression. Elle me racontait qu'elle avait été coincée par un type dans un photomaton quand elle avait 13 ans. Et ce terme de micro-agression, moi, je ne le connaissais pas. Et je me suis dit, mais c'était donc ça. Parce que ma génération, j'ai l'impression que tout ce qui a pu nous arriver de douloureux, de délicat, on se disait entre nous, finalement, c'est pas très grave. Et que la génération de jeunes filles d'aujourd'hui, elle dit, c'est très grave. Et je pense qu'elles ont très raison. Ouais. Et je pense qu'elles ont beaucoup à nous apprendre.
Puis en même temps, à la bout de chaîne, il faut s'occuper des vieux. Ça fait du boulot. C'est la charge mentale, je crois.
On espère qu'elles s'occuperont de nous aussi bien que nous nous occupons d'elles.
J'en suis sûre.
Oui, et ben, par revanche, ce dont je suis sûre, c'est qu'il va falloir que nous laissions le plateau.
Merci
Olivia
beaucoup.
De Lamberterie, comment font les gens aux éditions Stock? Et puis l'allégresse de la femme solitaire d'Irène Frein et qu'est Irène Frein, qui n'est pas tellement solitaire, mais qui est pleine d'allégresse, ça c'est certain. On vous retrouve sur vos stands et merci de nous avoir parlé de l'écriture et aussi de notre époque et du journalisme.
Merci à tous.
Merci beaucoup à vous.
Merci.